Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Merci de nous retrouver. Si vous nous rejoignez seulement, nous sommes ensemble jusqu'à 11h pour la suite de l'émission avec notre invité André Manoukian pour la saison 5 de La vie secrète des chansons. Il y aura le journal de la culture d'Hélène Manarino évidemment. Et puis nous recevrons Alexis Michalik pour un livre et une pièce de théâtre. Et puis dans les indispensables, des contenus pédagogiques mais ludiques pour les enfants et un documentaire qui revient sur l'affaire du dépeceur de Montréal. Je sens qu'on va se marrer. Bonjour André Manoukian.
Bonjour Philippe.
Vous êtes musicien, animateur, juré emblématique, historique de la Nouvelle Star, créateur du Chant du Périnée. C'est votre conférence psycho-érotique autour de l'histoire de la musique. Et là, on reste dans le sujet, non pas le Périnée, mais la musique. Car vous revenez ce soir sur France 3 avec une émission qui marche très très bien, au point que la chaîne vous a commandé une cinquième saison. C'est La vie secrète des chansons. Ça passe en deuxième partie de soirée à 23h ce soir. C'est quoi le principe de l'émission? Est-ce que toutes les chansons ont une histoire secrète ou vous n'avez sélectionné que des chansons qui ont une histoire secrète?
Toutes les chansons ont fatalement une histoire secrète. La leçon à tirer, parce que maintenant ça doit faire la cinquième saison et j'ai reçu beaucoup d'artistes, c'est qu'en fait il n'y a pas de recette pour faire un tube. C'est ça qui est formidable, c'est que souvent les artistes même passent à côté. Par exemple Renaud, quand il fait Mistral gagnant, il dit oh, je vais pas la mettre sur mon album, c'est trop intime. Et c'est sa femme de l'époque qui lui dit écoute, si tu l'avais pas, je divorce. C'est ça qui est drôle, ouais. C'est que on ne sait pas. Ça reste un mystère. Et en tout cas, pour moi, c'est super plaisant d'avoir tous ces artistes qui racontent, on raconte jamais au fond, comment naît une chanson. Et parfois, c'est un parcours du combattant.
Alors, il y a des thèmes dans votre émission. Je l'ai dit, c'est la cinquième saison. Le thème de ce soir, c'est...
Alors, le thème de ce soir, c'est l'Amérique. Ouais. C'est Joe Dassin qui chante l'Amérique. Il y a une histoire particulière avec l'Amérique puisque ses grands-parents étaient des réfugiés qui venaient de Russie, qui fuyaient les pogroms. Ouais. Et son père, Jules Dassin, immense réalisateur, a été chassé de l'Amérique par la connerie de McCarthy. Excusez-moi. Ouais. Et voilà. Et donc, il a ce rapport ambigu. Il va réadapter un tube américain qui s'appelle Yellow River et il va en faire l'Amérique.
Exactement.
On va voir Patrick Juvet aussi.
Racontez pas tout. Et on va l'entendre. On va l'entendre, Patrick Juvet. Je voulais commencer avec ce son, le son d'une personne qui est perçue comme une emblématique française des yéyés, c'est Sheila. Et on va entendre son plus gros tube. Ça s'est même plus vendu que L'école est finie, c'est Spacer. Ça se passait en 79, c'était à la naissance du disco ou pas loin, et ce son extraordinaire, ce n'est pas son producteur habituel qui l'a concocté, Claude Carrère, mais c'est, dites-le,
Nile Rodgers. Le chic Nile Rodgers qu'on retrouve avec les Daft Punk quelques années plus tard.
Exactement.
Ouais.
Et qui a fait le son de Let's Dance ou des premiers tubes de Madonna. C'est là où c'est complètement dingue. Et sans le passage en Amérique, ce qu'on découvre, jamais Sheila aurait connu ce succès mondial.
Exactement. Alors l'Amérique, ça a toujours été, même au temps des yéyés, ouais. Non seulement une source d'inspiration, mais c'est là qu'ils allaient chercher leurs chansons. Ouais. Claude François était le mieux placé. Souvent, dès qu'il y avait, une chanson, même soul de la Motown, les gens se battaient. Il y avait la bagarre entre Sylvie, entre Dalida, entre Sheila. C'est souvent Sheila qui gagnait parce que Carrère était le plus malin pour aller choper les droits. Ouais. Donc de tout temps, à partir des années 50, hein, tous les chanteurs dits néo-modernes, après le cha-cha-cha et Dario Moreno, vont tous se brancher sur l'Amérique pour aller faire leur marché là-bas. Ouais. Donc c'est presque naturel finalement que Sheila dise, tant qu'à faire, j'y vais, et pour une fois, on va pas faire une reprise, on va faire une vraie création.
C'est ça qui est très très fort. C'est ça qui est très très fort, c'est une vraie création. Et un truc formidable dans l'émission, c'est que vous êtes allé avec Sheila à New York, enfin vous, les caméramans de vos équipes, mais surtout, elle a retrouvé Nile Rodgers chez lui. Et alors, dans la séquence qui suit, Sheila est dans le salon de Nile Rodgers et il refait Spacer avec elle, avec une guitare électrique, qu'on appelle une demi-caisse, même pas branchée. Ils sont sur le canapé et c'est exactement ce qu'on vous a fait entendre, moment assez fort.
Love in his eyes. My heart keeps a beat when I'm by his side. He's the
C'est juste magnifique. J'adore ce passage. Alors, il faut dire le dispositif de l'émission pour qui ne l'aurait pas vu, c'est que vous êtes, non seulement vous interviewez les gens, mais vous les interviewez avec votre piano. Véronique Sanson raconte l'histoire de Vancouver, une histoire d'amour ratée, d'une séparation, mais elle vous raconte aussi, elle vous montre qu'elle a raté un accord au piano et que Vancouver, c'est né de ça, d'un ratage.
Exactement, c'est ça qui est cool, c'est ce piano qui est entre l'artiste et moi, donc ce qui fait que les chanteurs se sentent pas interviewés par un journaliste qui voudrait leur faire dire des choses, vous voyez ce que je veux dire, ouais. Et pour le coup, comme ils se sentent cool, ils balancent des trucs qu'ils auraient jamais balancé forcément, ou qu'on leur a jamais entendu raconter ces choses-là. Et le piano rassure, on est entre musiciens, et c'est un petit peu comme le son de Sheila que vous venez de passer, on est à la cool. Vous savez, souvent, quand on demande aux chanteurs sur un plateau, et vous, ça vous est arrivé, vous pourriez pas me chanter un petit air, tout de suite, ils font un non. Il me faut mon son, il me faut ma balance, il me faut mon ingé son, alors que là, mais ils sont tellement détendus qu'ils en ont rien à péter. On répète même pas. On est vraiment dans l'impro autour de chez soi. Je pense qu'à un moment donné, ils doivent oublier qu'il y a des caméras. Et du coup, c'est ces moments-là qui sont un peu plus rares, peut-être à la Téloche, où on a envie d'un peu d'authentique. Et voilà quoi.
Ouais, à la Téloche, ouais. Spécial Amérique, vous en parliez tout à l'heure, André Manoukian. On va l'entendre, parce que I Love America, c'est aussi ça. C'est Patrick Juvet, I Love America. Et là encore, puisque vous en parlez, je fais lien à ce que vous venez de dire. Vous êtes avec lui au piano. Il vous montre comment le premier tempo, c'était une chanson très très triste, qui a été accélérée par son producteur de l'époque, qui était Jacques Morali, qui était le producteur de Village People. Et il vous joue ça devant vous et vous le jouez aussi.
Exactement. En fait, cette chanson, c'était une balade. Il est un peu triste. Jean-Michel Jarre vient de lui dire qu'il arrêtait sa collaboration avec lui. Ils sont un peu seuls. Il sait pas quoi faire. Il décide d'aller à New York un peu pour se consoler comme ça, quoi. D'ailleurs, on apprend que Jean-Michel Jarre bossait avec lui, qu'il bossait avec plein de gens et que c'était aussi un producteur formidable, ouais. Et un auteur de chansons.
Et d'un mot, André, avant de vous redonner la parole, Jarre ne faisait pas la musique, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Il faisait les paroles. C'est lui, par exemple, qui a écrit Où sont les femmes?
Exactement, il a écrit Où sont les femmes, il avait écrit pour Christophe les mots bleus, et voilà, donc tout d'un coup, lui, il perd son parolier fétiche, il se retrouve là-bas, il découvre le Club 54, et puis il se fait brancher par Morali, il s'assied au piano, il fait une balade, et l'autre, il lui dit « double-moi le tempo ouais. », et bim, voilà. Ouais.
On a encore plein d'histoires à raconter, on va parler de Lavilliers, on va entendre peut-être Nougaillor, qui est surtout la création que vous avez faite, c'est une petite surprise, André Manoukian, vous restez avec nous, la suite de Culture Média juste après une courte pause.
Europe 1 Culture Média, Philippe Vondel.
De retour avec André Manoukian qui présente ce soir la cinquième saison, ou plutôt le premier épisode de la cinquième saison de La vie secrète des chansons. C'est sur France 3 en deuxième partie de soirée, c'est 23h. Le thème, c'est l'Amérique. Vous racontez l'histoire absolument incroyable ou de succès qu'on n'attendait absolument pas. Les jeunes, par exemple, ne savent pas que quelqu'un comme Claude Nougaro a connu une traversée du désert absolument terrible. Il est même viré, il est invité par le patron de son label Barclay à dîner. Et à la fin du dîner, le patron lui apprend qu'il lui rompt son contrat et que c'est terminé pour lui. Nougaro, évidemment, est dans l'état qu'on peut imaginer. Il revend sa maison de Montmartre. Il va habiter à New York pour se ressourcer. Il ne sait pas trop dans quel état il est. Là-bas, il rencontre un jeune musicien français qui avait bossé avec Stevie Wonder. Et il en sort ça. Je laisse les cuivres pour vous demander ça, André Manoukian. Ça fait du bien, la musique, de se prendre des coups dans la tronche, non?
Ça fait du bien, comme il dit, un coup de pied au cul m'a fait général, quoi.
Ouais.
L'arrangeur formidable, c'est Philippe Seth.
Exactement.
Que j'ai croisé à la Berklee School of Music. L'Amérique, c'est la mecque de tous les musiciens, réellement. Ce qu'on fait en un an à New York, il faut 10 ans ailleurs pour le faire. Par contre, quand New York vous aime pas, elle vous recrache comme un vieux chewing-gum, quoi. Donc, il y a quelque chose de fascinant. Et ceux qui y vont, lui, là, il fait un voyage sans retour. Il crame tout, il vend sa baraque, il a plus le choix.
C'est fou.
Et voilà, quoi.
Ouais. Vous racontez également comment Bernard Lavilliers a enregistré son tube, la salsa, avec les meilleurs musiciens de salsa de New York. Comment il arrive à les convaincre de travailler avec lui. Mais on pourrait également faire référence à Sheila, qui a réussi à enregistrer en petite française inconnue là-bas, avec Nile Rodgers et Chic. Il manque, pardon de vous dire ça, une donnée cruciale, c'est l'argent. Parce que ces musiciens, ces créateurs, faut les payer. Ils travaillent pas gratuitement comme votre vieux pote de lycée d'Annemasse. Pourquoi vous n'en parlez pas?
C'est pas forcément l'argent qui manque. C'est surtout que la personne avec qui vous ayez envie de bosser accepte de bosser avec vous. Parce que ces gars-là, ils font pas n'importe quoi. Quand Lavillier, il va voir Ray Barreto, Ray Barreto, il a du respect pour lui. Ouais. Et c'est pas forcément l'argent qui est une barrière. C'est si, à un moment donné, votre musique est intéressante. Vous savez, les Américains, ils ont un truc, c'est, ils vous reçoivent. Il n'y a pas de hiérarchie là-bas. Si vous pouvez leur faire gagner du pognon, ils vont prendre, même le plus grand PDG, il va prendre 5 minutes pour écouter le gars tout en bas du truc. Ça c'était Bruce Landval, le patron de Blue Note, qui me raconte comment il a signé Norah Jones, parce qu'il a une petite comptable qu'il a appelée, c'était la copine de sa comptable. Ouais. Il dit, j'aurais jamais dû rappeler cette meuf-là parce que j'ai pas à lui parler. Et voilà. Donc ils sont vraiment dispo. Si la musique est bonne, ils y vont, les gars.
Alors je précise que dans l'histoire des chansons secrètes, La vie secrète des chansons, pardon, il y aura également Michel Fugain, et puis Trio, Benabar, Jean-Louis Aubert, Suzanne, Christophe Mahé, Bill Alassani, et j'en oublie. Juste une question perso, vous êtes où? Vous êtes à Paris ou vous êtes dans vos montagnes, André Manoukian?
Bah moi, je suis confiné à Chamonix, alors j'ai pas envie de trop le raconter parce que c'est une chance et un privilège, je le sais, j'ai vu sur le Mont Blanc. Par contre, là où c'est frustrant, c'est que vous voyez, je viens de voir des policiers qui ont arrêté un jogger, pourtant je suis en lisière d'une forêt, 200 mètres au-dessus de la maison. Donc voilà. Je le regarde et j'irai après, quoi.
Comment vous vivez le confinement?
Je me trouve. Bon, j'ai récupéré un fiston de 18 ans qui m'a dit, bah tiens, on va apprendre à se connaître. Donc je suis avec mes deux fistons et Stéphanie, ma femme. Elle est super contente, hein, je vous dis.
Comme ça, elle vous a à la maison.
J'y étais jamais resté plus de 3 jours à la maison depuis un moment. Donc voilà, on se réapprend. On fait des codes aussi entre nous, bonne conduite.
Vous ne faites pas que des codes, vous faites aussi parfois de la musique. Bono, Cœur de Pirate ou Francis Cabrel ont sorti des chansons spéciales coronavirus et vous n'avez pas voulu être en reste. Vous nous avez envoyé un petit cadeau, on va l'écouter maintenant. Vous voulez faire une introduction? Je ne l'ai pas entendu. Je sais juste qu'on m'a dit, Manoukian a envoyé son fichier, ça fait 50 secondes, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. On l'envoie comme ça, vous voulez dire un petit mot liminaire?
Bah c'est vous, Philippe. C'est vous le producteur de cette affaire-là, vous m'avez dit.
Alors, je préfère les surprises. Je préfère les surprises.
Voilà, je viens de la faire ce matin, 9h, voilà.
Tout frais, tout chaud, ça sort du frigo. Non, ça sort du four. André Manoukian dans ses œuvres.
Virus minuscule nous bouscule, nous manipule. Parus pour une fois, mais chinois. Il dicte comme une vindicte sa loi, sa Bible invisible. Ce petit confetti nous confine, nous compresse, nous oppresse. Confinés de tous les pays, unis chez vous. Confinés de tous les pays, unis chez vous. Confinis ceux qui refusent et rusent. Confinis, t'as pas compris. Profite, médite, reprends le temps. Il faut, c'est beau, réapprendre à être tendre avec les siens, les tiens, les miens. Confinés, in fine, il nous faut nous aimer. Confinés, in fine, il faudra nous améliorer. Quand viendra le décret qui dira sors de chez toi, tu feras en sorte que tout ça ne recommence pas.
C'est magnifique. Et je m'adresse aux auditeurs. Vous pouvez évidemment l'entendre en podcast. En podcastant l'émission, il y aura cette pépite de Manoukian. Et c'est très, très beau, uni chez vous. Pardon ce compliment.
Confiné de tous les pays, uni chez vous. Voilà. On ne peut pas s'empêcher de reprendre des slogans de sa jeunesse.
Voilà, uni chez vous. Vous êtes toujours chroniqueur dans la nouvelle émission de Daphné Burkis, selon les après-midi sur France 2. Ça s'appelle Je t'aime, etc. Vous allez continuer à enregistrer. Il y a des contraintes de confinement. Vous allez faire l'émission de Chacun chez soi. Comment ça va se passer?
Non, là, tout a été arrêté. On devait enregistrer cette émission cette semaine. Et puis, voilà, on va reporter ça dès qu'on pourra. En tout cas, on se donne tous des nouvelles. Mmh. Je suis content, pour une fois, de faire partie d'une team de filles assez formidables. Et moi, je suis l'observateur.
Le nouvel observateur, si je peux oser un jeu de mots à mon tour. Quelles autres de vos actualités on peut annoncer? Est-ce qu'on sait si les festivals d'été vont être maintenus, annulés, ou est-ce qu'il est trop tôt pour le dire?
On ne sait pas encore. On ne sait pas encore. Nous, le Cosmo Jazz de Chamonix, il est la dernière semaine de juillet. Ouais. Alors, il est en altitude. On n'est pas dans une salle. Chaque jour, c'est un lieu d'altitude qui est différent. On ne sait pas. Ce qu'on espère, c'est que même, de toute façon, même s'il y a des difficultés à le mettre en place, on fera au moins, j'allais dire, un minimum en montagne. C'est pas compliqué. De haut-parleurs et voilà, quoi. Mais j'espère que, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. En tout cas, je ne pense pas trop. nous tous les musiciens, on est tous impactés. Moi, j'ai des concerts qui ont sauté. Ouais. J'étais au théâtre de l'œuvre pour faire le chant du Périnée, etc. On est tous un peu, mais c'est comme un peu tous les indépendants. Mine de rien, on n'a pas de salaire qui tombe et on est tous un peu en expectative. On n'a qu'une seule envie, c'est que tout soit fini. Et là, je vous garantis les fêtes, mais ça va être quelque chose.
Oh là là, on imagine ça.
Aussi que, ouais, on espère que ça va pas casser le mouvement. J'entendais des cinéastes qui disaient, ben voilà, les gens, ils vont commencer à prendre de plus en plus l'habitude d'aller sur les plateformes et ça va casser ce flux qui allait sur les cinémas. Moi, j'exhorte les gens, dès que ce sera fini, qu'on pourra tous se mélanger, non seulement à se faire des bisous, mais grave dans tous les sens, et à se faire des caresses, mais à ressortir tous ensemble pour communier sur de l'art.
Ouais. Merci beaucoup André Manoukian, vous êtes toujours aussi bavard, on vous a pas perdu en route, unis chez vous, j'adore cette phrase. Je le rappelle, la 5e saison de La Vie Secrète des Chansons, présentée par André Manoukian et son piano magique, c'est ce soir sur France 3 à 23h.
Europe 1 Culture Média, Philippe Vandel.
Bonjour Hélène Manarino.
Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous.
Ah, je suis content que vous soyez là, j'ai entendu sonner, ça fait blip, je me suis dit tiens c'est chez elle. C'est le moment du journal de la culture, journal qui commence, Hélène, mais non c'était dans le jingle préparé par Nicolas Souvent.
Ah pardon.
Journal de la culture qui commence par un communiqué de presse tombé hier soir. Le Festival de Cannes ne se tiendra pas du 12 au 23 mai comme initialement prévu.
Et oui, c'est officiel, une décision prise par le festival. Le communiqué de presse démarre tout d'abord par une pensée pour les victimes du coronavirus. Il précise que, compte tenu des circonstances, la 73e édition ne se tiendra pas aux dates prévues. Alors plusieurs hypothèses sont en cours d'observation pour qu'il ait lieu en juin-juillet 2020. Ils feront connaître leur décision dès que la situation sanitaire s'améliorera.
On continue avec cette question culturelle qui a été évoquée, qui est évoquée en ce moment. Les librairies vont-elles réouvrir ?
Une question étudiée par Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances. Alors les pouvoirs publics veulent réfléchir à des règles strictes qui permettraient aux librairies de continuer à ouvrir sous conditions. Soutenir surtout donc les libraires face aux géants d'internet Amazon. Pour le ministre, ce n'est pas uniquement Amazon qui pourrait récupérer le marché au risque, je cite, de fragiliser les librairies. Pour lui, les librairies sont effectivement un commerce de première nécessité. Alors le syndicat de la librairie française avait dès mercredi posé cette question. Si la vente de livres en librairie n'est pas indispensable à la vie de la nation, pourquoi la vente de livres par Amazon ou un hypermarché l'est-elle ? Ils n'ont pas demandé cependant la réouverture des librairies, ils veulent juste faire barrage aux hypermarchés et à Amazon. Alors certaines librairies aimeraient réouvrir pour servir leurs clients et pouvoir vendre leur stock en ligne. Mais hier après-midi, le syndicat a tranché. Les conditions d'une réouverture des librairies ne sont pas encore réunies. La priorité sanitaire prime sur tout autre enjeu, même financier. Amazon, de son côté, a arrêté ses commandes de livres pour ne commercialiser que son stock et se concentrer sur les produits de première nécessité.
Les artistes continuent de trouver des solutions pour occuper leurs fans.
Et oui, Philippe, tromper l'ennui, comme le propose avec ces mots Francis Cabrel. Alors Francis Cabrel, il a tout simplement décidé d'offrir une chanson par jour sur Facebook, sur la page du label de sa fille Aurélie, Babou Musique. Il se filme lui-même avec une caméra. Le jour 1, c'était son titre, Bonne Nouvelle.
Je me battais comme tout le monde pour quitter les ombres profondes. D'obstacles, je t'attendais comme un miracle, comme un Noël. Il est venu manger.
Alors, il précise même. Pour les amoureux de la guitare, c'est capo 5, l'accord. Donc les musiciens comprendront. Moi, oui. Personnellement, je comprends pas.
Non, c'est pas un accord.
Et il rajoute...
Il faut mettre le capo d'A sur la cinquième case, mais ça empêche voilà, pas après mais... de passer les accords.
Voilà, merci Philippe, je savais. Alors, et il rajoute que pour les amoureux de la coiffure, c'est fait maison. Oui, je vous invite à regarder la coupe de Francis Cabrel.
J'irai voir.
Alors, le jour 2, c'était Qu'est-ce que t'en dis ? Et le jour 3, c'est-à-dire hier soir à 20h précise, c'était ça.
Les derniers néons sont éteints. Ils doivent jouer à quatre mains. Au milieu de sa mélodie, des flashs ont traversé la nuit. Thank you.
bientôt.
Ouais, son titre, Je reviens bientôt. Alors avec son répertoire, il peut même faire 2 chansons par jour, Francis Cabrel. On peut lui demander quand même. Une à midi et une à 20h.
Exactement. On termine avec une bonne nouvelle, Hélène. On parle souvent de la sortie décalée des disques, mais il y en a un qui sort quand même aujourd'hui.
Et oui, Philippe, le nouvel album de The Weeknd. Le chanteur canadien sort donc son nouvel album After Hours, 15 titres dont, alors là vous allez pouvoir vous moquer de moi-même à distance parce que ce sont des titres en anglais, on y va,
ouais.
Blinding Lights,
ouais,
numéro 1 de sa sortie, Heartless,
ouais.
After Hours et Scared to Live, pas mal,
ouais.
Son quatrième album, donc après Starboy, album très attendu, le court-métrage consacré à ce nouveau disque a été vu déjà plus de 4 millions de fois sur YouTube. The Weeknd donnera 3 concerts à l'Accor Hotel Arena à Paris les 11, 12 et 13 novembre. Les fans sont ravis, une bonne nouvelle en cette période de confinement.
Merci beaucoup Hélène Manarino, vous retrouve lundi, je vous souhaite un bon week-end. Avant de poursuivre Culture Média avec Alexis Michalik.
Culture Média, Philippe Vandel.
Bonjour Alexis Michalik.
Bonjour Philippe Vandel.
Vous êtes ce qu'on appelle un phénomène, je vais paraphraser Lopes qui écrit sur vous, un merle blanc, un mouton à 5 pattes. Tout ce qu'il touche se transforme en or. Je vais décrire ça. Il y a 9 ans, vous avez écrit et mis en scène votre première pièce, Le Porteur d'Histoire. Non seulement ce fut un succès énorme, mais elle n'a pas quitté l'affiche depuis sa création, ni aucun autre de vos 5 spectacles. Et avant le blackout imposé par le coronavirus, on pouvait voir 5 pièces de Michalik dans 5 salles différentes de Paris. Une première. La dernière création, c'était une histoire d'amour. Je vais citer la plus célèbre, Edmond, qui est également devenu un film. Alors on ne peut plus aller vous voir évidemment au théâtre parce que vous étiez en plus sur scène dans la dernière, mais on peut toujours vous lire. On a parlé des librairies tout à l'heure avec Hélène Manarino. Vous avez publié à l'automne votre premier roman, ça s'appelle Loin. Je précise que c'est idéal pour la période, c'est un pavé, c'est bien, les gens ont du temps devant eux. Et alors je dois le dire, j'ai rarement lu un roman avec une telle densité dans les premières pages. Je pouvais faire une question d'interview à chaque paragraphe écrit par vous. Ça commence par une réflexion sur le sens de la vie en partant du sens du voyage. Pourquoi est-ce important à ce point pour vous ?
De voyager ?
Oui, de se poser la question, les deux.
Surtout dans le cas de figure. Moi, je commence toujours mes pièces par un prologue où je médite un peu sur la thématique que va prendre la pièce.
Ouais.
Et là, en l'occurrence, c'était pourquoi le voyage ? Et quand on se pose la question pourquoi le voyage, en fait, il y a plusieurs niveaux de lecture.
Mmh.
Hein, il y a le premier niveau littéral, pourquoi on voyage dans la vie ? Pourquoi on va sur une plage lointaine plutôt que de rester chez nous ? Et puis, pourquoi est-ce que l'homme a voyagé au cours du temps ? Et puis, quand on commence à se poser cette question, et ben en fait on se pose des questions sur nos origines, sur d'où on vient, ce qu'on fait, qui on est. Et donc j'ai écrit ce prologue il y a 10 ans à peu près, et puis je l'ai laissé de côté parce que j'ai écrit d'autres choses, et puis régulièrement j'y revenais, je me disais quand même ce serait pas mal que je termine ce roman un jour. Et puis voilà, je m'y suis mis il y a 3-4 ans, et puis ça m'a pris un certain temps, et puis je suis allé au bout.
Voilà, et puis évidemment ça sonne d'une manière très très particulière avec les circonstances actuelles où justement on a interdiction de voyager et de sortir. Première phrase, ami lecteur, avant de pénétrer dans les méandres du récit, j'aurais te poser une question. Qui es-tu ? J'aurais que tu réfléchisses un instant à ce qui fait que tu es toi. Et déjà là, on peut s'arrêter et prendre 2 heures. Alors, phrase suivante. Vous écrivez, il n'y a pas l'ombre d'un mouvement sectaire derrière cette entrée en matière. Vous ajoutez au sujet des chrétiens un peu plus loin, je ne leur jette pas la pierre, ma mère en fait partie. Et vous ajoutez 3 paragraphes plus loin, loin de moi l'idée d'avoir un discours moralisateur. Alors écoutez, je n'avais jamais vu dans les 2 premières pages d'un livre 3 mises en garde pour s'excuser d'avance de ce que l'on va écrire. Est-ce que l'époque est devenue intolérante à ce point qu'il faille s'excuser par avance ?
Non, je pense pas du. Oui, clairement, il y a une différence. Après, c'est plus pour les stand-uppers, les humoristes, et puis surtout les politiques.
C'est pour ça que ça m'a étonné chez vous.
Donc, chez les auteurs.
Ouais.
Oui, non, mais je pense que c'est mon côté un peu poli, c'est-à-dire que j'aime pas enfoncer des portes ouvertes. Et je suis pas non plus extrêmement radical. Je suis toujours assez mesuré dans mes jugements, et donc du coup, c'est un personnage un peu. qui se veut toujours mesurer et qui se veut être un peu la voix de la raison et donc de la diplomatie, quoi.
Ouais, alors
vous préférez s'excuser plutôt que de choquer.
Vous n'êtes pas mesuré, vous faites ce qu'il ne faut pas faire, soit ce qu'on devrait vous interdire de faire. Vous apostrophez sans cesse le lecteur, évidemment. Et j'aime beaucoup ce passage. Vous écrivez « À ceux qui espèrent un récit construit à la fin de ce prologue décousu, posez ce livre et partez en Nouvelle-Calédonie ou en Bretagne. » Je me suis dit, j'avais jamais vu un écrivain dire au lecteur de se barrer.
Oui, c'est vrai. Mais évidemment que ça l'invite à poursuivre sa lecture.
C'est une antiphrase, évidemment, mais quand même.
Oui, c'est vrai. Et pour la petite anecdote, quand j'ai cherché un éditeur, j'ai envoyé à deux éditeurs. Et la première m'a appelé en me disant « Bon, alors, il faut vraiment changer l'adresse au lecteur. Hein, ça va pas du tout.
Ça m'étonne pas.
Il faut couper. Il faut changer ceci. Il faut changer cela. C'est pas un style qui est correct. » Et puis le deuxième éditeur m'a dit « Bah, c'est super, on publie. » Donc voilà,
chacun son point de vue. Ça me rappelle l'histoire de Baffy qui avait fait son premier film et son dernier, qui s'appelait Les Clés de Bagnole, et sa pub c'était « N'y allez pas, c'est une merde ». Et en fait, il a fait un échec total. Les gens l'ont écouté, ils n'y sont pas allés, et ce fut son dernier film. Ouais. Alors maintenant, que raconte l'histoire ? Parce que c'est une histoire touffue et qui voyage, c'est rien de le dire.
C'est vrai, ça va être dur à résumer en une phrase.
Vous voulez que je vous aide ?
Antoine. Non, allez-y, lancez-moi.
Non, allez-y.
Ok, c'est l'histoire d'Antoine, un jeune homme de 26 ans qui, lui, son père est parti quand il avait 7 ans et il s'est toujours construit en opposition à ce départ de son père. Son père a disparu, on ne sait pas où il est parti. Et donc, lui est devenu cette espèce d'être très droit, très moral, qui ne supporte pas l'abandon. Et puis, un beau jour, il reçoit une carte postale qui a été perdue par la poste pendant 17 ans et cette carte postale, elle est envoyée par son père.
Ouais.
Il y a 17 ans, donc, dans un petit village autrichien et il dit simplement « Je pense à vous, je vous aime ». En parlant à sa famille. Et donc, Antoine se met en tête avec son meilleur ami, qui est le narrateur du récit et qui est un aspirant journaliste, et avec sa sœur, avec qui il ne s'entend pas très bien, ils sont un peu comme chat et chien. En fait, ils partent tous les trois sur les routes pour essayer de retrouver la trace de ce père disparu. Et évidemment, ce voyage va les mener de plus en plus loin.
Bon, dis donc, la sœur, c'est un personnage. Vous avez déjà rencontré des filles comme ça ?
Ouais. Non, mais j'adorerais. Mais c'est un peu une Lisbeth Salander, pour ceux qui ont lu la trilogie Millennium. Elle a un petit côté poupon Lisbeth Salander, c'est-à-dire que c'est une fonceuse, c'est une nana qui se pose pas de questions, qui est toujours contre, qui est toujours en train de remettre en question, et puis en même temps qui fait un peu n'importe quoi,
ouais.
Et en même temps on peut pas s'empêcher de l'adorer, quoi.
Ouais. Elle est toujours contre, mais elle est pas toujours habillée. Le roman existe également en roman audio, c'est sur Audible, magnifiquement lu, je vais le citer, par Damien Ferrette, que je ne connaissais pas, mais je le dis parce que ça m'a beaucoup plu. Vous avez surveillé cette version également ?
Oui, bien sûr. Il m'avait proposé d'abord de le faire moi-même, de le lire. J'avais dit « Ah, super, ça prend combien de temps ?» Et mon bureau, ça prend bien 15 ou 20 séances d'une journée. J'ai dit « Bon, voilà, je vais laisser quelqu'un d'autre faire parce que c'est un vrai métier. » Et puis, ouais, il l'a très bien lu, parce que comme c'est 640 pages, c'est 18 heures, je crois. Donc,
ouais.
Pour tous les gens qui écoutent des romans, n'hésitez pas, c'est effectivement très bien lu.
Voilà, et c'est sur Audible, c'est payant, mais évidemment, il y a du travail. C'est pas comme quand on fait un livre de manière électronique sur tablette, c'est toujours le même texte, il n'y a pas vraiment de travail en plus. Là, il y a vraiment beaucoup de travail en plus. Alors malheureusement, malheureusement, il faut un peu parler de l'actualité. Vous aviez 5 pièces à l'affiche, je l'ai dit. Tout s'est arrêté, évidemment. Où en sont vos productions, vos projets ? En septembre, vous devez monter au Théâtre de Paris une comédie musicale tirée du film de Mel Brooks, Les Producteurs. Où est-ce que ça en est ?
C'est vrai. Eh ben, ça se fera si jamais on n'est pas encore en confinement d'ici septembre.
Ouais.
Non, tout est à l'arrêt. Hein. Les théâtres, c'est les premiers à fermer, c'est normal. C'est les lieux où tout le monde se croise, etc. Donc, l'ensemble de la production est à l'arrêt. On espère. Il y a eu un appel citoyen pour que les spectateurs demandent à ne pas se faire rembourser forcément leurs billets, parce que ça créerait un désastre économique pour tous les théâtres qui sont vraiment dans le rouge, hein, parce qu'ils ont eu une période déjà avant même que ça ferme où le public a déserté, donc c'est faire tourner un théâtre à vide, c'est presque encore plus onéreux que simplement d'arrêter tout. Donc oui, c'est une situation précaire pour tout le monde, mais bon, voilà, on est tous solidaires de ce qui se passe en ce moment. L'histoire nous dépasse et ça reprendra avec les beaux jours, j'espère.
Comment vous vivez personnellement le confinement ? Vous faites quoi ? Vous écrivez ? Vous lisez ? Vous faites rien du tout ? Vous déprimez ? Vous regardez le plafond ?
Ben c'est marrant parce que tout le monde me dit « Ah là là, tu vas écrire 3 pièces pendant le confinement, c'est génial ». Et moi, c'est l'inverse en fait, parce que j'ai pas besoin vraiment d'un confinement pour écrire. Et du coup, je pense que je vais surtout me reposer et bouquiner et lire des séries et voir des séries que j'ai pas regardées. Et puis justement, prendre le temps de vivre un petit peu, quoi, tout simplement. Après, je pense que je vais écrire, mais je sais pas encore quoi.
Vous avez eu votre mère au téléphone récemment ?
Ouais, bien
bon,
sûr.
C'était bien ou pas?
Elle va bien.
Super. Je vous pose la question parce que vous avez dit à Jacques Nerson de l'Obs, vous avez dit, je me mets rarement en colère, sauf contre ma mère. Il lui suffit de parler de 5 secondes au téléphone pour me rendre fou. Ouais.
Exactement. Bah, je crois que la dernière fois où on s'est eu au téléphone, au bout de 5 secondes, on était en train de se gueuler dessus. Mais je l'aime d'amour. Hein. C'est juste que c'est la seule personne au monde qui vraiment est capable de me faire vriller, alors que j'ai un tempérament très très calme. Voilà, je l'aime profondément. Elle s'appelle Pamela Hargreaves.
Et on la salue. Merci beaucoup Alexis Michalik. Je rappelle, votre premier roman, il s'appelle Loin, c'est chez Albin Michel. Et on le trouve également sur Audible, lu par Damien Ferrette. Merci d'avoir été avec nous en direct.
Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Ce sont les indispensables maintenant dans l'émission en direct. Bonjour Louise Bernard.
Bonjour.
Vous nous conseillez ce matin un documentaire en plusieurs épisodes, une série documentaire donc diffusée sur Netflix. Elle s'appelle Don't Fuck With Cats, pardon pour l'accent. On peut traduire ça par On ne déconne pas avec les chats. Mais qu'est-ce que c'est que ce titre? De quoi ça parle? C'est pas une série animalière aussi?
Non, je vous préviens tout de suite, c'est pas parce qu'il y a le mot chat dans le titre qu'il faut vous attendre à du mignon. Bien au contraire, la série documentaire, elle est à la fois glaçante et captivante, donc totalement addictive. Et pour comprendre le titre, il faut d'abord que je vous fasse le petit résumé. La série doc, elle revient en 3 épisodes sur l'histoire de Luca Magnotta, ce criminel sadique surnommé le dépeceur de Montréal. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était il y a moins de 10 ans.
Bien sûr.
Le jeune homme escort boy tue son partenaire d'un soir, un étudiant chinois Luan Ji. Il découpe ses membres et sa tête, filme le tout, puis diffuse la vidéo sur YouTube.
Mais quel rapport avec les chats dont il est question dans le titre « Don't fuck with cats », on ne déconne pas avec les chats.
Avant de s'en prendre à un homme, Luca Magnotta commence son parcours criminel en se filmant en train de tuer des chatons. C'est une vidéo cruelle hein, qui est très regardée à l'époque, mais surtout très critiquée et qui déclenche la colère de beaucoup d'internautes. Écoutez le début du documentaire, ça commence justement par une femme qui explique pourquoi la vidéo a tant fait réagir.
Il y a une autre partie d'Internet où c'est une mêlée générale, les bas-fonds. Les gens postent du porno, de la violence, un homme qu'on pousse dans un escalier, des statues religieuses profanées, de la cruauté envers des personnes âgées, des bagarres de rue, des combats de clochards, des images diffamatoires de la Statue de la Liberté, et tout le monde s'en fout. On regarde ça sans ciller. Mais dans ces bas-fonds, il y a une règle implicite. Elle est implicite, mais parfaitement claire. La règle zéro. Et la règle zéro, c'est « on ne déconne pas avec les chats ».
Et ouais, on déconne pas avec les chats. Tout le monde ignore à l'époque qui est l'auteur de la vidéo et où il se trouve. Alors certains internautes cherchent à le savoir, hein. Cette femme qui parle, en fait, elle est l'une des membres d'un groupe Facebook qui se constitue après la diffusion de la vidéo. Et c'est là toute l'originalité du documentaire. Il retrace l'enquête minutieuse menée par ces geeks qui traquent cet homme pour tenter de le localiser et ensuite de prévenir la police de sa ville, hein, qu'il tue des chatons. Ils sont obsédés par cet inconnu. Ils découpent la vidéo image par image. Ils analysent le moindre indice qu'il pourrait y avoir. Les prises électriques, est-ce qu'elles sont américaines, est-ce qu'elles sont européennes? Même le dessus de lit est source de recherche.
Ce dessus de lit avec un loup était immonde et il était hyper spécial. On trouve pas mal de couvertures avec deux loups qui hurlent à la lune ou des trucs un peu mièvres. Ce dessus de lit, c'était juste une tête de loup. Il était vendu sur eBay et fabriqué par une boîte basée en Amérique du Nord. Et il n'y avait qu'un seul acheteur. On ne pouvait pas voir qui c'était, mais c'était une expédition à l'international. Ça ne nous aidait pas du tout. Il pouvait être n'importe où sur la planète.
Mais à ce moment-là, ils ne savent pas qu'il va finir par s'en prendre à un homme.
Mais non, et c'est ça qui est incroyable. En fait, on revit leur enquête au plus près grâce aux témoignages précis de 2 membres du groupe Facebook. Et puis surtout, on revit ce moment où ils sont parvenus à avoir pas mal d'informations sur Luca Magnotta au fil du temps. Et là, ils découvrent la nouvelle vidéo, celle où Luca Magnotta commet un meurtre d'homme cette fois-ci. Vous imaginez un peu ce qu'ils ont pu ressentir.
Et pendant combien de temps ils ont essayé, ils essayent de le retrouver?
Au total, c'est 1 an et demi d'enquête, presque 2 ans. Il y a un jeu pervers en plus qui s'est installé entre eux et Magnotta. Lui, il se savait traqué par ce groupe Facebook, donc il leur laissait des indices sur Internet, sur son identité. Donc au fur et à mesure, vous allez voir, les épisodes montent en puissance. Et puis, vous l'avez peut-être remarqué dans les 2 extraits que je vous ai passés, il y a un travail assez incroyable de montage. Et ça permet vraiment d'avoir un rythme et une dramaturgie qui vous tient en haleine.
Et je pense à tous les parents qui sont confinés chez eux avec les enfants. On regarde pas cette série si on a les enfants à la maison, en tout cas devant le poste de télé, devant l'écran.
Non. Surtout pas, c'est interdit aux moins de 16 ans. Et même âme sensible s'abstenir, hein, même si les vidéos de meurtre de Luca Magnotta elles ne sont pas montrées en intégralité. Il y a quand même quelques passages, notamment avec les chatons, où moi j'ai détourné le regard. Et pourtant, je suis pas du genre sensible d'habitude. Mais vraiment, ça concerne très peu de moments. Ça vaut le coup de regarder pour découvrir ou redécouvrir cet incroyable fait divers et la personnalité complètement tordue de Luca Magnotta. ça avec ce prisme un peu original et méconnu de ces enquêteurs geeks.
C'est à voir sur Netflix. Merci beaucoup, Luce Bernard. Et j'ajoute que Christophe Ondelat avait consacré un épisode de Ondelat raconte à Luca Magnotta, qu'on peut retrouver évidemment en podcast sur europe1.fr.
Europe 1 Culture Média, Philippe Vondel.
Suite et fin des indispensables du jour. Bonjour Margot Barallon.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Louise vient de nous parler d'un documentaire sur Netflix interdit aux moins de 16 ans. Et vous, Margot, c'est l'inverse. Donnez quelques conseils pour les enfants.
Oui, alors tout le monde le sait, trop d'écran, c'est pas bon pour les plus jeunes, mais au bout de 5 jours de confinement, je me suis dit qu'il était peut-être temps de faire preuve d'un peu de souplesse éducative. Ouais. Et sur Netflix, justement, il n'y a pas que des documentaires effrayants. Dans la section jeunesse, vous avez quelques pépites. Alors moi, je vous conseille notamment la danse des oiseaux, parce que oui, les oiseaux dansent, notamment les mâles, pour séduire les femelles. C'est donc un documentaire animalier entièrement consacré aux meilleures techniques de drague de différentes espèces.
Elle va juger le mâle sur un ensemble de critères. L'amplitude de ses mouvements, la longueur de ses plumes et la façon dont il les agite. C'est l'heure du verdict. Est-il le nouveau prince de la jungle ? Apparemment non.
Bon voilà, hein, il s'est pris un râteau, comme quoi hein, c'est aussi cruel pour les oiseaux que pour les humains. Alors les images du documentaire sont superbes, vous avez de la bonne musique, des commentaires très drôles. Moi je pense que même les adultes vont être captivés.
Et vous avez une autre recommandation, toujours sur Netflix.
Oui, si votre enfant est plus foot que nature, il y a deux documentaires sur la plateforme consacrés à deux grandes stars du ballon rond. Le premier sur Antoine Griezmann, le second sur Zlatan Ibrahimovic. Et celui-ci sur Zlatan est vraiment intéressant. Il y a tout un tas d'images d'archives. Il se focalise sur les débuts de Zlatan comme joueur professionnel quand il arrive dans le club de l'Ajax à Amsterdam.
C'est quoi votre style de jeu ?
Technique.
Technique ? Mais vous êtes très grand.
Ouais, mais mes pieds sont très habiles techniquement.
Voilà, hein, toujours cette modestie qui le caractérise. Bien, ouais. Alors j'ajoute que vous avez aussi une bonne série documentaire en 3 épisodes sur Raphaël Varane. Ça, c'est sur Prime Video.
Et puis question qui concerne aussi beaucoup de familles. Margot, est-ce qu'on est obligé de payer un abonnement pour instruire un peu ses enfants ?
Alors absolument pas. Hein. Il y a une émission très efficace qui est disponible gratuitement sur YouTube. Hein ? Reconnu le générique ?
Bah évidemment, c'est pas sorcier à trouver, c'est l'émission, c'est pas sorcier.
Et oui, pour tout savoir sur les volcans, les effets spéciaux, les animaux, enfin pour tout savoir sur tout en fait, il faut regarder les explications de Fred et Jamy. C'est hyper classique, mais ça marche toujours.
Alors ça c'est bien pour les enfants à partir de 7-8 ans et les ados, est-ce que vous avez quelque chose pour les encore plus petits ?
Oui, alors j'ai la plateforme de streaming parfaite, ça s'appelle Benchy, B-E-N-S-H-I. Ce sont que des films pour les enfants avec un seul mot d'ordre, la qualité avant tout. Vous allez retrouver quelques titres connus comme Kirikou ou les films de Charlie Chaplin, mais il y a un énorme catalogue, 200 films, des courts-métrages aussi, beaucoup d'animations mais pas que, tout est très bien classé par tranche d'âge. Vous allez trouver de quoi ravir tous les enfants de 2 à 11 ans.
Et le prix, ça coûte combien ?
Alors Benchy, c'est 5€ par mois, mais, et ça tombe toujours bien en temps de confinement, vous avez un mois d'essai gratuit si vous voulez tester. Ah. Et puis, pour couper quand même un peu des écrans, tout en gardant les histoires, vous avez la solution des podcasts. Et ça aussi, c'est très adapté aux plus petits. Je vous conseille notamment celui qui s'appelle « Encore une histoire », racontée par Céline Kallmann, qui est d'ailleurs une ancienne journaliste d'Europe 1.
Merci beaucoup Margot Barallon et Céline Kallmann, qu'on remercie. Merci à tous, merci à toute l'équipe, merci à tous ceux qui sont confinés chez eux et qui ont fait encore aujourd'hui un travail de dingue pour qu'on ne voit pas les fils. Nous, on se retrouve lundi à 9h30 pour Culture Média avec Maxime Saada en personne, le patron de Canal+, pour le lancement de Disney+, qu'on pourra retrouver sur les box et les antennes de Canal+. C'est une très très bonne nouvelle. Et puis l'humoriste Jarry qui s'apprête à jouer son spectacle sur Instagram et sur Facebook tous les soirs. Maintenant, c'est Anne Romanoff et sa bande pour Ça fait du bien. Je vous souhaite une très bonne journée et un très bon week-end sur Europe 1.